Les séminaires du Collège de France.
Bonjour à tous. Je vais commencer par remercier Sébastien de m'avoir invité à présenter mes travaux devant vous. Donc, on va parler un peu des biomatériaux. Il y avait une question tout à l'heure. Et plus spécifiquement, comment rendre des biomatériaux bioactifs dans le cadre de l'application dans le corps humain, et en particulier en utilisant des polysaccharides et des protéines. Donc un biomatériau est un implant médical, mais pas seulement, c'est un matériau qui est non vivant et qui est en contact avec un système biologique et pour traiter ou pour prévenir une maladie. Donc dans ces biomatériaux, on a des matériaux de différents types, des titanes ou ses alliages, les céramiques, mais également des polymères, qu'ils soient synthétiques ou naturels. Là, je vous ai mis un exemple d'un implant de hanche où vous avez les trois matériaux, le titane, la céramique et le polyéthylène, qui est un polymère. Et donc, quand on implante un implant, on a deux types de problématiques. La première, c'est l'infection bactérienne, puisque là, on va ouvrir un site et y mettre l'implant. Et quand on a une infection bactérienne, on va le traiter par des antibiotiques et pour éviter la systémie. Mais le problème, c'est que en ce moment, on est face à une problématique. Ce sont les infections nosocomiales, puisque les bactéries, certaines souches, ont développé une résistance aux antibiotiques actuels. Et quand elles résistent à ces antibiotiques, elles vont former un biofilm, c'est-à-dire une coque de polysaccharides, pour se protéger de leur environnement. Les infections nosocomiales représentent 5% des patients hospitalisés et peuvent générer 9000 décès par an uniquement en France. La deuxième problématique est la réponse du corps lorsqu'on on met un implant. On va avoir le système immunitaire qui va commencer à interroger cet implant et lorsqu'il ne va pas le reconnaître, va essayer de le dégrader. Mais si nos cellules du système immunitaire ne peuvent pas le dégrader, elles vont recruter d'autres types cellulaires qui vont commencer à produire du collagène afin d'isoler cet implant du reste du corps humain. Et lorsqu'on a cette gangue de collagène autour de l'implant, on n'a pas les cellules spécifiques qui vont commencer à le coloniser. Par exemple, quand on veut mettre un implant osseux, on souhaite avoir des cellules de l'os qui vont se développer autour. Or, cette réponse avec cette gangue de collagène va empêcher la colonisation cellulaire et donc l'implantation correcte de notre dispositif. Alors, quand on veut traiter une réponse d'un implant vis-à-vis de son environnement, il faut commencer à traiter ce qui est au contact. Et donc, on va commencer à traiter la surface. D'où l'idée d'essayer de fonctionnaliser la surface de nos implants pour pouvoir contrôler le devenir des bactéries, s'il y en a, et le devenir cellulaire autour. Et donc, dans ce domaine-là, nos travaux sont dans le domaine des multicouches de polyélectrolytes. Alors, les multicouches de polyélectrolytes sont des revêtements qui sont obtenus dans de l'eau en utilisant des polymères polycation et polyanion. Ce sont des polymères chargés positivement dans le cas du polycation et chargés négativement dans le cas des polyanions. Les revêtements, les surfaces généralement sont chargées négativement, donc on va pouvoir les mettre au contact d'une solution de polycation, donc des chaînes chargées positivement, et qui vont s'absorber à la surface par des interactions électrostatiques. Et ensuite, après rinçage, on va pouvoir mettre au contact d'une solution de polyanion, donc ce sont les polymères chargés négativement, pour pouvoir réaliser une deuxième couche. Et après rinçage, continuer ainsi de suite, quasiment indéfiniment. Donc ce type de procédé peut être obtenu en trempant notre surface, mais également en pulvérisant notre solution de polymère, et plus récemment en brossant avec un pinceau sur la surface du substrat qu'on veut traiter. Alors, c'est une méthode qui est très simple. Elle est dans l'eau, elle est à température ambiante et on peut modifier les propriétés de ces films, que ce soit leur épaisseur, leur rugosité, leur charge de surface, en jouant sur différents paramètres qui sont le nombre de couches déposées, la nature du polyélectrolyte, le pH, mais également la force ionique. Et c'est une méthode qui est très puissante dans le domaine des biomatériaux, puisque si on veut donner une bioactivité à une surface, on doit utiliser une molécule ou une macromolécule bioactive qui sont souvent solubles dans l'eau dans ce cas-là. Et donc là, je voudrais vous présenter trois exemples qu'on a développés au laboratoire. Les deux premiers concernent le développement de revêtements antibactériens, dans un premier cas en utilisant des molécules biosourcées, et dans le deuxième cas, avec une démarche de biomimétisme. Et enfin, je terminerai par le développement de cellules de tissus de muscles in vitro. Donc le premier exemple qui est le revêtement antibactérien biosourcé. Donc là, on s'est tourné vers les polyphénols, qui sont des molécules avec des groupements styrène et des OH sur la formule chimique. Donc on retrouve cette unité qui se répète dans ces différents exemples, qui sont tirés des fruits ou des légumes et qui ont plusieurs propriétés de protection pour ces végétaux. Antioxydantes, elles permettent de se protéger des radicaux libres, mais également se protéger des radiations UV et des agressions des pathogènes, donc avec un effet antibactérien. Celui qu'on a choisi est l'acide tannique, qui est celui qui est le plus courant et qui se retrouve dans les feuilles des plantes ou des fruits. Donc il a cette structure-là avec un cœur sucre et plusieurs unités catéchol et gallol, donc qui est antibactérien, comme je disais, antioxydant, anti-inflammatoire, antitumoral et qui a aussi cette propriété de complexer avec des protéines par des liaisons hydrogènes. Et comme partenaire, puisque quand on veut réaliser ces méthodes de dépôt couche par couche, on a choisi le collagène, qui est une protéine qui se retrouve à 35% dans notre corps et qui a la capacité de guider la colonisation cellulaire, puisqu'elle est reconnue par les cellules. Alors quand on utilise le collagène, on doit travailler à un pH acide puisqu'il est insoluble au-delà d'un certain pH. Donc quand on a voulu construire ces films, il a fallu choisir un tampon. Donc c'est une molécule qui permet de fixer le pH à une valeur donnée sans qu'elle change lorsqu'on va rajouter les molécules et les macromolécules qu'on utilise. Et donc on a utilisé le tampon acétate et le tampon citrate. Et donc la première chose qui nous a étonnés quand on a construit nos films, c'est qu'on a vu que l'épaisseur de ces films était différente lorsque les solutions qu'on utilisait étaient préparées dans le tampon citrate ou dans le tampon acétate, avec une meilleure construction dans le tampon acétate que dans le cas du tampon citrate. D'autre part, on s'est intéressé à la topographie des films. Donc on a regardé quelle structure avaient ces films. Et donc sur ces images de microscopie à force atomique, vous avez une structure fibrillaire, dans le cas de l'acétate, qui se rapproche de la structure fibrillaire du collagène. Et par contre, dans le tampon citrate, on a plutôt des granules et la structure fibrillaire ne se voit pas du tout. Et donc là, on a mis en évidence, c'était la première fois, qu'il y avait un effet de la solution tampon qu'on utilisait et pas uniquement du pH. Là, on est au même pH qui est de 4 dans les deux cas. Donc, on s'est intéressé aux interactions qui pouvaient se passer entre le collagène et l'acide tannique selon la solution tampon qu'on utilisait. Pour cela, on a utilisé la calorimétrie isothermique pour mesurer la chaleur de complexation lorsque l'acide tannique rentre en contact avec le collagène. Donc on a réalisé un ajout goutte à goutte d'acide tannique et suivi la chaleur dégagée par la réaction, l'interaction. Et donc ce qu'on voit dans le cas de l'acétate, on a de la chaleur qui est libérée, donc on a un phénomène exothermique qui va jusqu'à la fin jusqu'à 2 en rapport molaire entre l'acide tannique et le collagène, et c'est dû aux interactions hydrogènes entre l'acide tannique ici en vert et le collagène ici. Dans le cas du citrate, on a au début une réaction exothermique, et puis tout d'un coup ça sature, on n'a plus rien qui se passe. Et donc dans ce cas-là, on a totalement saturé nos sites autour du collagène, et d'ailleurs à la fin, on a le collagène qui a précipité au fond de notre ballon ici. Donc cette expérience nous montre qu'il y a une très forte interaction entre l'acide tannique et le collagène. Pour essayer de comprendre ça, on est allé regarder les films qu'on obtenait. Donc là, on est revenu sur les films construire collagène-acide tannique sur nos surfaces, et on a regardé au photon électron X combien on a essayé d'évaluer finalement combien il y avait d'acide tannique et combien il y avait de collagène. Et ce qu'on a vu, c'est que dans le cas des films construits dans le citrate, on avait plus d'acide tannique qui était immobilisé que dans le cas où on travaillait dans le tampon acétate. D'autre part, on a aussi détecté du citrate dans le film. Et donc, ce qu'on a proposé comme explication, c'est que dans le cas de l'acétate, l'acide tannique va uniquement interagir avec les sites de liaison hydrogène. Et dans le cas du citrate, comme on a une molécule avec trois carboxyliques et qu'on est à pH 4, on en a deux qui sont protonés et un qui est déprotoné. Ce carboxylique déprotoné va interagir avec les sites chargés positivement du collagène et créer un pont pour absorber plus d'acide tannique, et donc sur les sites qui ne sont pas accessibles sur l'acétate. Et donc on a essayé de comprendre pourquoi on avait ces structures granulaires, et donc on est allé suivre le dépôt de collagène et d'acide tannique dans une expérience qui s'appelle la microbalance à cristal de quartz, qui permet de mesurer dans le temps, lorsqu'on injecte nos molécules, l'augmentation de masse. Donc ici, on a injecté le collagène à la surface, on a une augmentation de la fréquence qui correspond à une augmentation de masse, donc on a bien absorbé du collagène à la surface, on a rincé avec du tampon, et puis on a injecté l'acide tannique. Et ce qu'on voit, c'est que l'acide tannique diminue la masse absorbée. Donc on a une perte de matière. Par contre, on peut remettre encore du collagène et ainsi de suite. Alors d'où vient le fait qu'on diminue la masse qui est absorbée? Lorsqu'on arrive avec l'acide tannique ici en vert au contact de notre surface, le collagène va se désorber de la surface, commencer à complexer avec l'acide tannique. Et comme l'acide tannique va créer des ponts entre nos structures de collagène, il va créer des agrégats dans le surnageant. Et ensuite, ces agrégats vont commencer à se réabsorber à la surface sous forme de granules, ce qui explique ces images en microscopie à force atomique. On a construit à pH 4. Quand on veut utiliser ces films pour traiter des infections bactériennes, pour prévenir des infections bactériennes, on va être obligé d'aller à pH physiologique, donc pH 7,4 dans 150 millimolaires NaCl. Et donc ce qu'on a vu, c'est que lorsqu'on met nos films qui ont été construits à pH 4 dans un tampon physiologique, donc on change de pH, on change de concentration en sel, on a une libération de l'acide tannique qui est plus importante dans le cas des films citrate que dans le cas des films acétate, ce qui est cohérent avec le fait qu'on a absorbé beaucoup plus d'acide tannique quand on a construit nos films. Et ensuite, on a mis des bactéries sur notre surface, donc des staphylocoques dorés, et on a compté le nombre de colonies formées sur la surface. Et ce qu'on voit, c'est que lorsqu'on utilise des films qui sont construits dans le tampon acétate, on a autant de bactéries quasiment que lorsqu'on les cultive sur une surface non traitée. Par contre, ce qui a été étonnant, c'est que dans le cas des films construits dans le tampon citrate, on a une très forte diminution de la quantité de bactéries sur la surface. Et ce qui est assez étonnant, c'est qu'on peut trouver un cas où on libère autant d'acide tannique dans le tampon citrate que dans le tampon acétate, et pourtant, on a une très forte différence entre ces deux cas. En plus, on sait que l'acide tannique, il faut une concentration de 100 microgrammes par millilitre pour être bactéricide. Or là, on libère à peine 10 microgrammes par millilitre. Et donc on explique le fait que les films construits dans le tampon citrate sont plus efficaces que dans le tampon acétate par justement la présence de ces granules qui sont, qui sont en contact avec les bactéries et qui vont attaquer ces bactéries localement et avoir une concentration efficace. Je vais vous parler du deuxième exemple sur les revêtements biomimétiques cette fois. Et donc là, on s'est inspiré de ce que Elena Ivanova a mis en évidence sur les ailes de cigales qui ont cette propriété de superhydrophobicité, c'est-à-dire que les gouttes d'eau vont rester sphériques à la surface, ce qui est dû à une nanostructuration de la surface de ces ailes. Ici, on a des sortes de poteaux de 300 nanomètres à peu près de hauteur, et on voit que lorsqu'on a les bactéries qui sont absorbées sur la surface, elles vont être totalement tuées par ces nanostructurations. On l'a vu aussi sur les ailes de libellules et les geckos, et on explique cette propriété par le fait que les bactéries vont être, les membranes vont être trouées à cause de ces nanostructurations, soit par contact, soit par le mouvement de la bactérie qui va se heurter à ces nanostructures, ou simplement par un flux, un mouvement de flux à la surface. Et en plus, on sait que les ailes d'insectes sont composées de chitine, qui est un polysaccharide, dont la structure est ici, qui se retrouve dans les coquilles de crustacés également et les champignons. Et donc, nous avons regardé dans la littérature, aucun film à base de chitine uniquement été reporté en tant qu'antibactérien. Et on s'est posé la question, comme ce sont des nanocristaux qui sont représentés ici de l'ordre de 116 nanomètres de longueur et 10 nanomètres de largeur, donc ils sont anisotropes. Est-ce que si on les complexait avec l'acide tannique en utilisant du fer dans ce cas-là, on pourrait éventuellement les orienter avec un pinceau pour avoir une nanostructuration qui pourrait être antibactérienne. Et donc on a comparé la construction avec le pinceau et avec le trempage, et par trempage. Donc on a acheté des pinceaux de dessin et on a simplement peint nos revêtements d'acide tannique, de fer 3 et de chitine à la surface. On a mesuré l'épaisseur de ces films. On dépose beaucoup plus de chitine, enfin de dépôts de chitine en particulier avec le trempage par rapport au brossage. Et on a regardé la topographie en microscopie à force atomique et on voit bien que les nanocristaux sont orientés dans le cas de l'utilisation du pinceau et pas dans le cas du trempage. On a évalué cette orientation en utilisant un logiciel Imagi pour évaluer l'angle d'orientation privilégié par le dépôt. Et on voit que là, on a notre dépôt qui est orienté puisqu'on a un maximum d'orientation à 0 degré ici qui est dans le sens de notre pinceau, ce qui n'est pas le cas dans le cadre du trempage. Et donc, on a voulu voir quel était l'état des bactéries au contact de ces surfaces. Et donc, ce qu'on a vu, c'est que sur les films orientés, donc ici vous avez staphylocoque doré et Escherichia coli avec les bactéries en vert vivantes et mortes en rouge, et on voit très bien la différence entre les films orientés et les films non orientés, où là on voit beaucoup de bactéries et très peu dans le cas de l'orienté. On a évalué par imagie également la fluorescence qui nous permet aussi d'évaluer le nombre de bactéries, et on voit bien qu'on a une très grosse différence entre l'orienté et le non orienté. Également, quand on va sur un nombre de bactéries beaucoup plus important et pendant un temps de 48 heures, on va pouvoir évaluer le biofilm, donc la production de cette matrice qui va protéger les bactéries. Et ce qu'on voit, c'est qu'on a de nouveau, dans le cas de l'orienté, très peu de bactéries, alors que dans le cas du non-orienté, on a beaucoup de bactéries et sur le vert également. Quand on regarde les images de microscopie électronique, on a très peu de bactéries à la surface. Donc ça, ce sont ces structures rondes. Donc là, sur le vert, elles sont en forme. Sur l'orienté, on voit qu'elles ont des trous et qu'il y en a très peu. Donc on a vraiment bien percé la membrane de ces bactéries. Ensuite, on a regardé les aspects mécaniques de la membrane. Et on a pu voir que la membrane des bactéries sur le film orienté était beaucoup plus dure. Et donc, par rapport au non orienté et par rapport à l'état sur le verre, non fonctionnalisé. Et ce qu'on a vu, c'est que l'épaisseur de la membrane bactérienne était beaucoup plus épaisse dans le cas de l'orienté que dans le cas du non orienté. Et ça vient du fait que les bactéries, quand elles sont sous stress, elles vont commencer à produire des molécules et des macromolécules pour se protéger et pour protéger leur membrane. Et donc, c'est ce qui s'est passé ici. Et c'est pour ça qu'on a une rigidité beaucoup plus importante. Ce qu'on peut regarder aussi, c'est par microscopie à force atomique, ces fameux picots que je vous ai montrés tout à l'heure sur les ailes. Et là, ce sont nos films orientés par rapport aux films non orientés. Et on voit bien la différence. Donc, ce qui est en blanc, c'est ce qui est le plus haut. Et on voit bien qu'on a beaucoup plus de pics ici que là, ce qui se représente ici par la section de profil. On a aussi regardé la distribution des hauteurs et on voit bien qu'on est à 80 nanomètres sur l'orienté par rapport au non-orienté. Donc on a une sorte d'effet hérisson à la surface. Et ensuite, on a regardé les adhésions, l'adhésion entre la pointe AFM qui va un peu mimer les membranes bactériennes qui sont chargées négativement. Donc on les a fonctionnalisées par des phosphates. Et on a regardé l'interaction électrostatique entre cette pointe AFM qui mime un peu la bactérie avec notre surface orientée et non orientée. Ce qu'on voit, c'est que l'adhésion, la force d'adhésion, donc l'interaction avec la surface est beaucoup plus importante sur les films orientés que non orientés. Donc ça veut dire qu'on est chargé beaucoup plus positivement dans ce cas-là. Et en plus, quand on regarde la densité de charge à la surface sur 5 x 5 micromètres carrés, on voit qu'on a beaucoup plus de points bleus ici que sur le non orienté. Et ça veut dire qu'on a plus de charges positives sur une même surface que sur le non orienté. Et donc on a deux effets. On a les charges positives qui vont attirer les bactéries qui sont chargées négativement et qui vont rencontrer ces pics en type de hérisson et les trouer pour justement les tuer. Donc je l'ai représenté ici dans ce cas-là. Donc je terminerai avec le dernier exemple sur plus le développement de tissus. Donc là je vous ai parlé comment contrôler le devenir des bactéries, maintenant je vais vous parler de comment contrôler le devenir de cellules. Quand on regarde le tissu musculaire, c'est un tissu qui est plutôt orienté, avec plusieurs niveaux ici qu'on voit, et en particulier les myofibrilles qui sont ici. Ces myofibrilles, ce sont des associations de myotubes qui sont ensemble et qui viennent de myoblastes, donc ce sont comme des cellules souches qui circulent dans notre corps, et qui vont migrer pour commencer à adhérer dans le site dont on a besoin, et qui vont s'orienter et ensuite fusionner en une super cellule qui s'appelle le myotube avec plusieurs noyaux à l'intérieur et ensuite former les myofibres. Donc quand on veut développer un tissu musculaire, ce qu'il nous faut, c'est orienter ces myoblastes et les différencier pour avoir le myotube. Et donc une de nos questions était, est-ce qu'on peut utiliser notre film de collagène acétanique que je vous ai montré tout à l'heure, mais en l'orientant avec le fameux pinceau, puisque le collagène a une structure fibrillaire. Et donc, on voulait savoir si on pouvait l'orienter avec ces pinceaux. Et donc, on a construit les films toujours à pH 4. On a donc l'épaisseur ici, qui est plus importante avec le trempage. On devine une orientation du collagène qui est moins visible qu'avec la chitine, mais avec l'évaluation avec le logiciel, on voit bien qu'on a une orientation qui est privilégiée à 0 degré par rapport à celui qui est obtenu par trempage. APH physiologique, de nouveau, l'acide tannique est libéré. Donc on a construit à pH 4, on va dans un tampon physiologique pour pouvoir mettre nos cellules, nos myoblastes. Et on a mis des myoblastes humains. Et ce qu'on voit sur les films qui ont été réalisés par trempage où le collagène n'est pas orienté, on voit très peu de cellules. Donc ce qui est en rouge, c'est leur cytosquelette et ce qui est en bleu, c'est leur noyau. Donc là, vous avez un zoom d'une des cellules qui est ici. Et ce qu'on a regardé, c'est le marqueur de différenciation. Donc on peut suivre la différenciation cellulaire en utilisant des fluorophores, ici la myosine qui est en vert. Et ce qu'on voit sur les films orientés, on a une orientation des cellules et en plus on a le facteur de différenciation qui est largement exprimé en vert ici. En microscopie confocale, on peut regarder la structure un peu plus fine où on a les noyaux en bleu ici, le cytosquelette qui est en rouge et le facteur de différenciation en vert ici. Et là, on a une sorte de petit muscle de 1,7 mm. Pour évaluer un peu plus nos résultats, on a regardé l'indice de fusion qui est le pourcentage de noyaux qui est inclus dans un myotube. On voit que sur le film orienté de collagène, on est à 90%, alors que sur le non orienté, on est à peine à 20% et sur le vert, encore moins. Ensuite, on a regardé la dimension de ces fameux myotubes et on voit qu'ils sont à peu près à 700 micromètres sur l'orienté, alors qu'ils sont à une centaine sur le non orienté. Et donc, ce type de film qu'on a réalisé sur une surface pourrait être utilisé pour développer des muscles, des fibres de muscles de l'ordre du millimètre dans ce cas-là, pour des patients, puisque là on a utilisé des myoblastes humains. Donc je terminerai par une conclusion. Donc j'espère que je vous ai convaincu que cette technique de couche par couche était très puissante, facile à mettre en œuvre puisqu'elle est dans l'eau et qu'on pouvait faire varier plusieurs propriétés en jouant avec la solution tampon, alors que ça n'avait pas encore été reporté dans la littérature, qu'on peut du coup avoir un impact de la topographie de nos films sur le devenir des bactéries, mais également des cellules, et que ça peut, qu'on peut, pour, on peut donc les appliquer pour dans le domaine des biomatériaux, en particulier pour prévenir les infections bactériennes et développer des muscles humains, des tissus humains. Voilà, je terminerai en remerciant tous mes collaborateurs et vous pour votre attention.
Bonjour à tous. Moi aussi, je voudrais remercier chaleureusement Sébastien qui m'a invité à présenter nos activités de recherche que l'on réalise au Laboratoire de chimie des polymères organiques, le LCPO, à Bordeaux. Donc, les travaux auxquels je me consacre portent sur l'étude de polymères qui sont bio-inspirés, qui sont des polymères un peu particuliers qu'a mentionné Sébastien, qui sont des polypeptides inspirés de l'élastine. Et je vais vous montrer comment on peut utiliser ces polypeptides hybrides et leur structure hybride pour obtenir des matériaux auto-assemblés bioactifs. Donc, ces polymères ou polypeptides sont inspirés de l'élastine. L'élastine, c'est une protéine naturelle qui est une composante de la matrice extracellulaire majoritaire avec le collagène qu'a mentionné Fousia. L'élastine, en fait, elle est présente sous forme de fibres et c'est une protéine qui est très stable parce qu'elle est réticulée. L'élastine est responsable des propriétés élastiques des tissus, comme par exemple la peau, qui est capable de subir des contraintes et des relaxations, notamment également l'aorte et dans tous les tissus conjonctifs qui doivent se contracter et s'étirer. Dans les années 70, les groupes de Foster et Gray aux États-Unis ont identifié qu'il y avait deux types de domaines dans la fraction soluble de l'élastine, donc c'est-à-dire pas l'élastine sous forme fibreuse, mais l'élastine soluble. En fait, elle a été traitée avec de l'acide oxalique à 100 degrés, donc pour détruire les nœuds de réticulation. Et en fait, ces domaines possèdent donc un type de domaine qui est riche en alanine et des lysines, donc qui sont responsables de ces réticulations entre fibres, et des domaines qui sont riches en trois types d'acides aminés, la glycine, la proline et la valine, et qui sont responsables justement des propriétés d'extension de ces protéines. Lorsque une analyse un peu plus poussée a été réalisée sur la séquence de ce domaine hydrophobe. En fait, il a été identifié qu'il y avait des peptides qui étaient fortement répétés, des séquences peptidiques fortement répétées, notamment des séquences de type valine, proline, glycine, glycine, donc VPGG, mais aussi VPGVG ou alors APGVGV. Et ces observations ont été vraiment à la base des travaux pionniers qui ont été réalisés par Dan Urey aux États-Unis à l'Université d'Alabama. Dan Urey, c'est lui qui a vraiment posé les bases sur ce que l'on appelle aujourd'hui des elastin-like polypeptides ou ELP. Dans un premier temps, il a montré qu'un polymère, donc obtenu par une réaction de polycondensation de ce pentapeptide, était capable de s'agréger de la même façon que la fraction d'élastine soluble. Donc ici, sur cette courbe de turbidimétrie, on peut voir qu'à froid, ou en deçà d'une certaine température, le polypeptide est parfaitement soluble, tandis que lorsque la solution est chauffée, l'alpha-élastine, de même que les polymères d'élastine, ont tendance à s'agréger, à coacerver, et à faire une séparation de phase entre une phase riche en polymères et une phase pauvre en polymères qui va être riche en solvants. Donc c'était la première démonstration que ces ELP sont des polymères thermosensibles. Ensuite, il y a eu un développement majeur qu'il a pu réaliser. C'est qu'en fait, on peut voir ici, c'est un polymère qui, intrinsèquement, par les techniques de polymérisation qui sont utilisées, est polydisperse, c'est-à-dire qu'on a un degré de polymérisation N ici qui varie entre 10 et 15, qui est intrinsèque aux techniques de polymérisation. Il a montré que, en fait, ces polypeptides d'élastine, puisque ce sont des polypeptides, ils peuvent être ingénérés génétiquement et produits chez des bactéries, notamment les bactéries E. coli, Escherichia coli. Et ceci permet, je vais vous le montrer un petit peu après, d'obtenir des polypeptides qui sont parfaitement monodisperses. Donc, N est un nombre précis et non pas une gamme de degrés de polymérisation. Et les troisièmes travaux que je voudrais citer, parce que ça a vraiment été la base de tout ce qui a pu être fait, notamment par Ashutosh Chilkoti, qu'a mentionné Sébastien tout à l'heure, c'est que, en fait, Dan Urey et ses collaborateurs ont montré que ces propriétés de thermosensibilité pouvaient être mises à profit pour extraire ces ELP et les isoler des lysa bactériens simplement par des cycles de température et de refroidissement. Simplement en faisant des cycles de température, on fait précipiter le polypeptide d'élastine et on élimine dans le surnageant toutes les protéines qui sont produites par les bactéries et qui vont être des polluants. Et on resolubilise le polypeptide d'élastine à froid. Et ça s'appelle la technique qui a été appelée ensuite par Ashutosh Chilkoti en 99, la technique de inverse transition cycling. En fait, des cycles de température, chauffage, refroidissement, pour venir comme ça extraire et isoler les ELP des lysa bactériens. Donc, pour résumer, donc les polypeptides d'élastine sur lesquels on travaille actuellement sont constitués de séquences répétées de ce pentapeptide, valine, proline, glycine, un résiduote et une glycine. Et comme l'a mentionné Sébastien, donc ils sont thermosensibles. À froid, ils sont parfaitement solubles. Et au-delà d'un point de trouble, en phase aqueuse, ils vont avoir tendance à s'agréger, à expulser l'eau. Et donc, ce sont des polypeptides qui ont une température critique basse de solubilité de l'ALCST. Et ce phénomène est parfaitement réversible, c'est-à-dire, Sébastien l'a montré dans sa vidéo, on peut refroidir, chauffer, on va avoir une agrégation et une resolubilisation réversible. Alors, ce point de trouble, ici, il peut être modulé au moyen de différents paramètres, notamment les paramètres macromoléculaires, notamment la nature de ce résidu hôte ici, je vais en parler un petit peu plus tard, mais également la longueur de chaîne ou des paramètres que je dirais environnementaux, que sont la concentration en polymère, mais également la présence de sel ou la force ionique. Et comme je vous le disais, donc pour nous qui travaillons sur des objets auto-assemblés, cette propriété thermosensible vont avoir un double avantage. Un, faciliter l'isolement et la purification de ces polypeptides d'élysées bactériens et deux, bah, contrôler les propriétés d'auto-assemblage par différents stimuli et notamment la température. Donc ces polypeptides d'élastine recombinant, en fait, ils ont un caractère qui est double. À la fois, ce sont des protéines qui sont génétiquement ingénérées. En fait, on utilise les techniques de l'ADN recombinant et d'ingénierie des protéines pour, à partir d'un gène qui code pour la protéine d'intérêt, on utilise la bactérie comme bioréacteur, la bactérie va produire le polypeptide et on va l'isoler par la méthode que j'ai appelée inverse transition cycling. Vous pouvez voir ici sur ce spectre de masse qu'on a effectivement une macromolécule qui est parfaitement monodisperse. Ici, elle fait plus de 17 000 grammes par mol. Mais ces ELP ont également un caractère de, des, ont également le caractère de polymère de synthèse. En effet, en dessous de leur point de trouble, c'est-à-dire que lorsqu'ils sont parfaitement solubles, leur rayon de giration est proportionnel à la racine carrée de leur masse molaire, ce qui est une caractéristique particulière des polymères de synthèse en solvant état, c'est-à-dire dans un bon solvant, quand les chaînes vont être bien en interaction avec le solvant, donc complètement désordonnées. Donc en fait, ces ELP, ce sont aujourd'hui des modèles de ce qu'on appelle des IDP, des protéines intrinsèquement désordonnées. On pourrait aussi les qualifier de polymères intrinsèquement désordonnés. Donc, pour ma part, je n'ai pas une formation de polymériste, je n'ai pas non plus une formation de biotechnologiste. Et donc, lorsque j'ai commencé ces travaux en 2012, lorsque j'ai été recrutée au CNRS, j'ai effectivement envisagé de produire ces polypeptides d'élastine chez la bactérie et ainsi pouvoir accéder à différentes macromolécules. Très rapidement, je me suis aperçue, ou on s'est aperçu, que ces petites étapes qui sont indiquées par des simples flèches dans mon schéma très simplifié sont actuellement des étapes qui peuvent prendre énormément de temps. Et donc finalement accéder à différentes structures de LP dans lesquelles on aura introduit des motifs bioactifs, des séquences clivables par des différentes enzymes, en fait prend énormément de temps. Et ça, c'était pas envisageable pour les applications qu'on envisageait. Et alors, on a développé ce que j'ai appelé une méthode, une approche duale, qui utilise la biosynthèse pour produire des squelettes de LP, et ensuite on utilise des méthodes chimiques de post-modification bioorthogonale pour venir introduire, soit en bout de chaîne de ces polypeptides d'élastine, soit sur les chaînes latérales de certains acides aminés particulièrement choisis, et bien des motifs pour pouvoir ainsi accéder à des macromolécules à base de LP qui peuvent être éventuellement bioactives et présenter des propriétés d'auto-assemblage. Donc nous utilisons cette approche à la fois pour étudier des aspects plutôt fondamentaux, mais également pour concevoir des macromolécules pour différentes applications que sont le biomimétisme, la nanomédecine ou l'ingénierie tissulaire. Moi aussi, j'ai choisi deux exemples pour illustrer cette approche. Le premier exemple, je voulais préciser avant que les structures, les squelettes d'élastine sur lesquels on travaille, donc la structure est représentée ici. Vous voyez des répétitions de séquences valine, proline, glycine, valine, glycine, et puis ceci de façon répétée. On a actuellement une librairie de LP de différents masses molaires, et vous pouvez voir qu'ici, en résidu haute, on a introduit des résidus méthionine, donc des résidus méthionine et des résidus valine en position haute. Pourquoi on a introduit des résidus méthionine? C'était pour pouvoir utiliser des techniques de modification chimique assez simples qui vont avoir de fortes impacts sur les propriétés physico-chimiques de ces polypeptides d'élastine. Donc ces travaux ont été réalisés en particulier par Rosine Petit-Demange en collaboration avec Timothy Deming à l'Université de Californie, Los Angeles. Donc notamment, cette fonction thioéthère sur la chaîne latérale de la méthionine peut simplement être oxydée sous forme de sulfoxyde ou de sulfone. Vous verrez après que ça change complètement les propriétés physico-chimiques de ces ELP. On peut également utiliser des réactifs différents, des réactifs d'oxaziridine ou des réactifs d'époxyde pour venir introduire ici un groupement R qui peut être de différentes natures et ainsi fonctionnaliser notre squelette DLP avec tout un tas de molécules différentes. Donc un premier exemple des macromolécules que l'on a pu synthétiser de cette façon-là, c'est ici ce qu'on appelle un polypeptide greffé avec des chaînes grasses, des chaînes oléiles. Donc on a ici le squelette ELP qui porte 40 répétitions et sur les 11 méthionines présentes dans la répétition, on a greffé des chaînes ici, des chaînes grasses, des chaînes oléiles. En termes de rétrosynthèse, on a introduit par un dérivé d'époxy, l'utilisation d'un dérivé d'époxy un groupement alcyne aliphatique et on a synthétisé un acide oléique porteur d'un groupement azido de façon à pouvoir faire le couplage covalent par chimie catalysée au cuivre, donc c'est ce qu'on appelle la chimie clique, donc de la chaîne oléyle sur les alcynes aliphatiques. Ces travaux ont été réalisés par une postdoctorante, Vuzala Ibrahimova. Pour ce qui est de la caractérisation, je ne vais pas entrer dans le détail, mais on a des macromolécules qui sont amphiphiles, puisqu'on a ici des chaînes grasses et ici un polypeptide qui est plutôt hydrosoluble. Donc la caractérisation n'est pas toujours triviale. Ici en particulier, on a utilisé l'ARMN, on utilise la chromatographie d'exclusion sérique, mais l'enjeu de nos caractérisations, c'est de montrer que nos chaînes ont bien été attachées à notre squelette polymère. Ensuite, je vais vous montrer que ces molécules greffées avec des acides oléiques peuvent être auto-assemblées. Et pour cet auto-assemblage, on a utilisé une technique un peu particulière qui est la réhydratation de film. Très brièvement, notre amphiphile, on l'a solubilisé dans un co-solvant, donc un mélange de chloroforme et de méthanol, de façon à ce qu'il soit bien soluble. On a utilisé des billes de verre que l'on est venu mettre dans la solution. Ce qu'on en a fait, c'est qu'on a évaporé le solvant, et à ce moment-là, le polymère est venu s'absorber à la surface de nos billes de verre. Puis, une fois le solvant évaporé majoritairement, on est venu mettre un tampon à queue, c'est-à-dire un mauvais solvant des chaînes oléyles et un bon solvant de la chaîne polypeptidique. Et ceci nous a conduit à former des nanoparticules. Alors, on a pu voir qu'en utilisant des billes de 5 mm de diamètre, on a fait ce qu'on appelle des vésicules géantes, qui sont en fait toutes petites puisqu'elles font une vingtaine de microns. Et en utilisant à l'inverse des billes de 0,5 mm de diamètre, on a fait ce qu'on appelle des vésicules de taille nanométrique. Vous pouvez voir ici que leur diamètre est autour de 200 nanomètres. La chose très intéressante que l'on a pu mettre en évidence sur ces vésicules de taille nanométrique, c'est que ces vésicules conservent le caractère thermosensible des polypeptides d'élastine. Alors là, c'est un graphe un peu plus complexe, je vais le détailler. Ce qu'on peut voir, c'est qu'à chaud, nos nanoparticules sont plus petites que celles que l'on obtient lorsque l'on refroidit la solution à 20 degrés. On le voit ici sur une courbe de diffusion de lumière. Lorsque l'on chauffe la suspension de nanoparticules, on a une intensité de lumière diffusée qui va augmenter. Et à l'inverse, lorsqu'on va refroidir, cette intensité va diminuer. Et ceci de façon très réversible. Comment on le comprend et comment on l'a expliqué, ce phénomène ? C'est qu'en fait, quand vous avez vos vésicules qui sont à froid, donc ici à 20 degrés, vous avez vos boucles d'élastine de LP qui sont bien présentes, bien solubilisées dans le solvant à queue, puisqu'elles sont à froid, elles sont parfaitement solubles, et donc on a des vésicules qui sont plutôt gonflées. Lorsqu'on va chauffer cette suspension de vésicules, en fait, les chaînes de LP vont ressentir l'effet de la température, elles vont se déshydrater et elles vont collapser à la surface de nos vésicules. Alors, elles collapsent, mais elles permettent néanmoins de conserver la stabilité colloïdale puisqu'on ne voit pas une agrégation macroscopique de ces vésicules. Donc ça veut dire qu'on a encore des présences d'eau, on a, à 37 degrés, on a conservé de l'eau pour venir stabiliser nos vésicules. En revanche, elles sont contractées puisque les chaînes de polypeptides sont venues se rétracter à la surface des vésicules et ceci est réversible. On a pu montrer qu'on pouvait utiliser ce phénomène pour venir relarguer ou libérer une drogue modèle, en fait un fluorophore. Donc le fluorophore est alors libéré lorsqu'on le refroidit la solution. On prépare notre suspension de nanoparticules à chaud, on encapsule notre modèle de principe actif, et lorsque l'on refroidit la vésicule, comme en fait elle se gonfle, eh bien le principe actif peut sortir plus facilement de ces vésicules. Mais en termes d'application, c'est plus facile de libérer un médicament en chauffant qu'en refroidissant. Refroidir un tissu, la cryothermie, c'est beaucoup moins utilisé que l'hyperthermie. Donc en termes d'application, c'est peut-être limité, mais on a trouvé que cet exemple était quand même assez remarquable. Le deuxième exemple que je voudrais mentionner, c'est la synthèse d'un bioconjugué où on a attaché un photosensibilisateur à un bout de chaîne de LP. Et ceci a été réalisé dans le cadre d'un projet qui a été coordonné par Yann Van Est aux États-Unis, un projet qui a été financé par l'Europe et qui visait à développer des nanoparticules à base de polypeptides thermosensibles pour des thérapies abdominales. Donc, notre implication dans ce projet, et ça a été encore Vuzala qui a réalisé la synthèse, ça a été d'incorporer donc ici un photosensibilisateur que l'on va appeler TT1, donc qui est une molécule qui est capable, sous irradiation lumineuse, de générer des espèces des espèces réactives de l'oxygène. Merci. Donc voilà, donc ce que l'on appelle des ROS, Reactive Oxygen Species. Et donc voilà, on a réalisé ce conjugué TT1-ELP. Ce qu'on a pu observer très rapidement, c'est que l'illumination de ce photosensibilisateur avait pour effet direct de venir oxyder les résidus méthionine et notamment les fonctions thioétères présentes sur nos chaînes polypeptidiques. Donc, ce qu'on a pu voir, c'est que notre thioéther est venu s'oxyder en sulfoxyde par photoirradiation du photosensibilisateur. Ça a une conséquence qui est absolument énorme en termes de propriétés physico-chimiques. On l'avait démontré dans des travaux précédents, en l'absence de photosensibilisateur, c'est qu'un ELP, comme ça ici, le ELP qui présente 40 répétitions, a un point de trouble qui se trouve autour de 22-23 degrés, alors que lorsque la fonction thioéthère est oxydée sous forme de sulfoxyde, on voit que le point de trouble augmente considérablement puisqu'il va atteindre presque 55 degrés. Donc, dans le cas de notre bioconjugué TT1-ELP, ça a aussi des conséquences considérables. En fait, on peut voir que sur le bioconjugué non oxydé TT1-ELP, on a un point de trouble qui se trouve autour de 25 degrés. Ça veut dire qu'à 37 degrés, ce TT1-ELP est agrégé. Si la suspension est illuminée, le photosensibilisateur va générer des ROS qui vont venir oxyder nos fonctions thioéthères, et on voit que le point de trouble de ce conjugué TT1-ELP photooxydé est alors bien au-delà de 37 degrés. Ça veut dire qu'à 37 degrés, il reste presque soluble. Vous allez voir qu'en termes d'auto-assemblage, on a pu voir cet effet. Si vous avez votre TT1-ELP à froid, donc on est à 20 degrés ici, on voit effectivement des objets qui sont relativement petits. Alors, ce ne sont pas des chaînes solubles à cause de la forte hydrophobie citée du photosensibilisateur qui a tendance en fait à s'empiler sur lui-même, et nos chaînes de polypeptides qui sont fortement hydratées viennent stabiliser de petits nanoclusters ici. En revanche, comme je vous le disais, quand on passe à température physiologique à 37 degrés, eh bien, on a des agrégats qui sont macroscopiques de l'ordre de 3 microns. En revanche, lorsque ces agrégats sont irradiés à la longueur d'onde d'absorption du photosensibilisateur, Nos fonctions thioéthères de nos polypeptides d'élastine sont oxydées sous forme de sulfoxyde. Ça veut dire qu'on augmente considérablement l'hydrophilie des chaînes polypeptidiques, et on se retrouve dans le cas Donc à 37 degrés, quasiment dans le même cas que l'on était à 20 degrés sans photooxydation. Donc on se retrouve avec des petits nanoclusters, simplement parce que nos chaînes de LP qui étaient hydrophobes à 37 degrés lorsqu'elles étaient non oxydées deviennent des chaînes hydrophiles, et donc on retrouve la formation de ces nanoclusters. Si je résume sur un schéma ici, très simplifié, donc notre bioconjugué TT1-ELP à 20 degrés, donc à froid, forme de petits nanoclusters de l'ordre de 20-30 nanomètres de diamètre. Lorsqu'on applique la température physiologique, donc la température à laquelle ils doivent être appliqués pour des applications biomédicales potentiellement, on forme des agrégats qui sont macroscopiques, de l'ordre de 3 microns. Et lorsque l'on vient irradier en lumière rouge, donc à la longueur d'onde d'absorption du photosensibilisateur qui génère des ROS, on a une oxydation des fonctions thioétères de nos résidus méthionine, et alors nos chaînes de LP deviennent hydrophiles, ce qui provoque le désassemblage de ces agrégats macroscopiques pour former ces petits nanoclusters. Alors l'hypothèse qu'on avait, c'est que ces petits nanoclusters pourraient diffuser beaucoup plus profondément dans les tissus et notamment dans les tumeurs. Et ça a été démontré par nos collaborateurs, je l'ai mentionné, Yann Van Est. Je vais aller assez rapidement sur ce schéma compliqué, mais globalement, ils ont conçu deux types de particules. Des particules, à chaque fois ces particules, comportaient notre bioconjugué TT1-ELP et également un D-bloc ELP qui est amphiphile. Et le deuxième set de nanoparticules, ils ont également ajouté un ELP qui a été fonctionnalisé en bout de chaîne avec un petit fragment d'anticorps qui reconnaît un récepteur particulier des cellules tumorales. Donc ces deux séries ont été auto-assemblées sous forme de nanoparticules, donc des nanoparticules, ce que l'on va dire contrôle, et des nanoparticules qui sont ciblantes, qui peuvent être reconnaître spécifiquement les cellules tumorales. Ils ont également montré que lorsqu'ils irradiaient à la longueur d'onde d'absorption du photosensibilisateur, le photosensibilisateur générait des ROS, ce qui provoquait le désassemblage de ces nanoparticules sous forme de nanoclusters beaucoup plus petits. Et donc, après gradation, on a deux types de nanoclusters, des nanoclusters contrôle ou des nanoclusters qui présentent le petit fragment d'anticorps en surface. Et ils ont démontré qu'effectivement, on pouvait avoir ici, c'est le cas de ces petites nanoclusters qui sont ciblés, qu'on pouvait avoir une accumulation massive au sein du sphéroïde de cellules tumorales. Alors, ce que l'on voit ici, c'est ces nanoparticules qui sont beaucoup plus grosses, qui, elles, restent plutôt en périphérie des sphéroïdes. En revanche, dans le cas des nanoparticules qui sont non ciblantes, qu'elles soient de taille de centaines de nanomètres ou sous forme de nanoclusters, elles restent vraiment en périphérie des sphéroïdes. Les nanoclusters, eux, pénètrent plus. Vous allez le voir sur le graphe de cytotoxicité qui est le suivant. Donc, il y a pas mal de contrôles qui ont été réalisés. Ce qu'on peut voir ici, on a l'échelle de viabilité cellulaire, c'est-à-dire le nombre de cellules qui restent vivantes. Donc, ce sont les cellules tumorales. Ici, dans le cas des premières nanoparticules, on a à peu près 70% de viabilité cellulaire. Lorsque l'on a photo-irradié, on a encore 60% de viabilité cellulaire. En revanche, lorsqu'on voit ces troisième type de nanoparticules, donc NP3 qui est ici, donc ciblé vers les cellules tumorales, on a une viabilité cellulaire qui est très diminuée puisqu'elle reste de 30%. Et quand on a les nanoclusters qui sont, eux, capables de diffuser plus profondément dans le sphéroïde, on a à nouveau une chute de la viabilité cellulaire. En revanche, une deuxième photoirradiation, c'est-à-dire une deuxième illumination à la longueur d'onde d'absorption du photosensibilisateur, ne provoque pas de mort cellulaire significativement différente. On avait espoir qu'un une deuxième irradiation provoquerait de la mort cellulaire, mais ce n'a pas été le cas. Donc j'en ai fini pour ma présentation. Donc en ce qui concerne le message que je souhaiterais vous faire passer, donc en conclusion, l'approche que l'on développe dans l'équipe auto-assemblage polymères et sciences du vivant qui est dirigée par Sébastien Lecommandou, c'est qu'on essaye de s'inspirer de macromolécules naturelles et d'exploiter leurs propriétés, qu'elles soient physico-chimiques, biologiques, pour concevoir des biomatériaux synthétiques. Et la deuxième chose sur laquelle je voudrais insister, c'est que l'on cherche aussi à combiner différentes approches de synthèse. La semaine dernière, vous avez peut-être entendu mon collègue Colin Bonduel qui a présenté la synthèse de polypeptides par réaction de polymérisation par ouverture de cycle. Et ce sont donc des approches de synthèse que l'on combine, donc les approches recombinantes, les approches de polymérisation, les approches de post-modification ou de bioconjugaison orthogonale, pour obtenir efficacement des macromolécules qui présentent à la fois des propriétés d'auto-assemblage et une bioactivité au sein de leur séquence, de façon à accéder ainsi directement à des matériaux auto-assemblés biologiquement actifs. Si on prend le cas de nanoparticules, il est plus intéressant d'avoir une nanoparticule qui va directement comporter les fonctions biologiques plutôt que d'avoir une nanoparticule, par exemple, de type polymère que l'on va venir post-fonctionnaliser en aval de la synthèse de la nanoparticule pour des raisons de meilleure reproductibilité. Voilà, je vais terminer ma présentation en remerciant tous les doctorants, post-doctorants et ingénieurs de recherche qui ont pu travailler avec moi ou avec nous depuis mon intégration à LCPO en 2012. Je remercie les financeurs. Je veux remercier également Sébastien, avec qui je travaille depuis plus de 16 ans maintenant. On n'est pas toujours d'accord, mais il n'y a pas eu de conflit majeur, je crois. Et je voudrais aussi remercier Colin Bonduel qui développe donc l'autre approche de polypeptides. Moi, je développe des polypeptides monodisperses à partir de techniques recombinantes. Lui, il travaille sur des polypeptides qui sont un peu plus polydisperses, qui sont obtenus par polymérisation d'ouverture de cycle. Alors, on a régulièrement des échanges assez mouvementés autour de notre café du matin. Merci pour votre attention.
Collège de France. Le savoir en illimité. Retrouvez tous nos contenus audio et vidéo sur notre site collège-2-france.fr, les plateformes de podcast et nos chaînes YouTube.